Voici un livre atypique et particulièrement pertinent pour tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité, mais aussi aux aspects collectifs de notre vie et du lien entre les deux. Ce livre parle d'entreprise, parle de leadership, mais il parle aussi de conscience. Il parle de conscience et de sens. Et il est particulièrement clairvoyant en ce qui concerne le sens que les gens, et particulièrement les leaders, donnent à leur existence et à leur emprise sur la société. Car, pour l'auteur, Nathalie Rodary, le monde, je cite, est aujourd'hui rempli de leaders animés des intentions les plus néfastes. Corruption, enrichissement personnel, égo surdimensionné, etc. Et elle présente le combat humaniste, car le sous-titre du livre c'est « Le leadership humaniste » comme étant d'abord la conscience permettant de transformer les entreprises, les sociétés et le monde en général, et en même temps l'idée évidente pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, qu'il s'agit d'abord et en même temps de se transformer soi-même. Dans ce livre, publié chez l'éditeur Guy Trédaniel, la mutation du monde en cours, nous la vivons déjà. Et nous, ce que nous vivons, c'est un saut quantique, c'est-à-dire un phénomène discontinu et soudain. Ce sont de véritables bonds auxquels on est en train d'assister. Et je précise que ce livre a été écrit avant la crise du coronavirus. Le passage à autre chose devient, nous dit-elle, une nécessité vitale. C'est une mutation qui n'est pas un choix, mais qui s'impose à nous et qu'il serait tout à fait insensé d'y résister. L'auteur de décrire l'état dans lequel nous sommes, un état d'épuisement, épuisement de soi-même, de nos modes de vie, de nos modes de pensée, du système politique, du système médical, elle le disait déjà, épuisement des médias, épuisement du système d'éducation, et puis épuisement de la terre, des ressources, évidemment. Et pourtant, les esprits sont quasiment prêts. D'après elle, ils n'attendent que les bons leaders qui sauront les conduire. Mais ce n'est pas un plaidoyer pour l'existence de leaders ou d'esprits éclairés qui viendraient entraîner la foule solitaire. C'est l'idée que un état de conscience supérieur est en jeu au premier titre pour pouvoir entraîner ce changement collectif. Et cet état de conscience supérieur signifie que l'humain est au cœur de la mutation. Il s'agit donc d'un saut quantique de conscience. La conscience qui est lumière, la conscience d'ordre spirituel qui est l'esprit, qui nous offre un état de vibration bien supérieur à celui qu'habituellement nous vivons dans nos vies. C'est un état de non-conditionnement, hors du champ du temps, hors du monde matériel. Puis vient la description très concrète de ce que la conscience permet et que ne permet pas le progrès tel qu'il était conçu, et particulièrement le progrès des sciences, car les sciences sont de l'ordre du mental et non de l'ordre de la conscience. La mutation passe donc non pas par la technologie en elle-même, mais par l'homme, directement par l'homme lui-même, tout en faisant attention à ne pas tomber dans des délires comme celui du transhumanisme, qui a pour but d'augmenter nos capacités physiques et mentales. Donc on est à l'inverse de la conscience. L'auteur voit un certain nombre de signes de la mutation en cours, et elle met en exergue la notion de cohérence et de besoin de cohérence face à ces multiples signes. Elle étend le champ de la mutation à tout, à toute l'humanité, à tous les pays, à toutes les cultures et à toutes les institutions qui sont à repenser dans leur base même, voire à supprimer. Ce qu'elle note, c'est l'incapacité des dirigeants en place à savoir dessiner ce nouveau monde, à en montrer la vision, le dessin. Elle décrit le monde d'incohérence dans lequel nous sommes. Elle le fait de façon très précise. C'est un monde de dualité, un monde de la pensée binaire, un monde dans lequel les représentations et les valeurs restent à dominante masculine, où la différence est abordée sous forme conflictuelle. Et elle explique comment l'ego est source de la violence. l'ego qui correspond à ce sentiment de dualité et aussi à une identification à la forme, un sentiment d'être et d'avoir, lié à la forme et aux expériences qui sont les nôtres dès l'enfance. Plus l'identification à la forme est forte, plus le moi séparé est virulent et inconscient, inconscient du soi. Elle pointe aussi qu'au niveau collectif, le besoin de contrôle mène à l'uniformisation. Le capitalisme, dit-elle, est à certains points de vue totalitaire, quand il ne pense qu'à grossir, grossir encore. Et puis, elle parle de l'impérialisme religieux. Tout cela est bien relié à l'ego. L'ego, source d'illusion. Alors donc, comment quitter ce monde qui s'écroule? Il nous faut désirer réellement en finir avec la souffrance, avec le laid, avec le sordide, avec le grotesque, avec le médiocre, avec l'immaturité, avec le n'importe quoi. Et d'expliquer que pour trouver ce nouveau monde, il n'y a pas de mieux ailleurs, il y a mieux en nous-mêmes. Dans ce nouveau monde, c'est l'immatériel qui prévaut. L'équilibre se rétablit ainsi. L'immatériel prévaut et gouverne le matériel. Nos esprits sont alors de retour et se donnent, se manifestent sans dualité, sans crainte. Les idées, les créations, les intuitions, les intentions, les émotions, les énergies, l'ouverture, l'accueil, la réceptivité, les élans, la compréhension, la compassion, la motivation, la joie, l'aide, la communion. Là est la force du cœur. Un retour à la source où les interférences et les distorsions n'ont pas encore fait leur apparition, car il n'y a pas l'illusion de la forme à ce stade. Et de citer Bernard Werber, l'humain spirituel est l'humain libéré des besoins matériels, relié au ciel et conscient d'être venu vivre ici le jeu de l'aventure de la conscience. Un monde lumineux, un monde auquel on accède parce que on a appris à aimer. Aimer qui veut dire libre. Il va falloir apprendre à être libre, dit Nicolas Hulot. Un monde manifesté, conscient de notre vraie nature, nous lui donnons à être, à ce monde, à se réaliser sur Terre, dans ce monde physique, au cours de nos propres vies. Revient la notion de cohérence, qui est cette unité, notre cohérence d'âme, infinité de formes que l'âme prend et qui est notre liberté terrestre et un incroyable terrain d'expérimentation. Ceci est vrai pour une personne, dit-elle, et rappelons-le, aussi vrai pour une entreprise. L'entreprise, celle qui affirme ouvertement sa vocation, et bien par magie, elle rassemble alors les personnes qui partagent cette vocation et qui sont animées des mêmes intentions. Toute une série de conséquences pour les entreprises sont décrites. Elle en vient à l'idée de la réhabilitation du lien, d'un équilibre de soi qui va de pair avec l'équilibre des relations aux autres, à la nature, aux animaux, à la planète. Si nous cultivons avec nous-mêmes une relation de paix et d'amour, nous cultivons nécessairement une relation de paix et d'équilibre avec notre environnement. En fait, tous les aspects du bien et du beau sont scrutés par l'auteur. L'émotion du beau, l'imagination reviennent. Après ces réflexions, semées de notations très concrètes, elle en vient à l'enjeu humaniste. Elle se demande ce que signifie être humaniste. Quels sont les enjeux? Quelle direction prendre? Eh bien, il s'agit de faire grandir l'humanité. Une réflexion extrêmement intéressante ensuite sur les systèmes. Les systèmes n'ont que l'autorité que nous leur prêtons. Eh bien, elle examine comment, pourquoi et comment s'affranchir des systèmes qui sont partout et sous l'autorité desquels, bizarrement, nous nous plaçons. Elle montre comment, en entreprise, des tentatives de gouvernance nouvelles sont apparues. Par exemple, le système de l'entreprise libérée d'Isaac Getz, les systèmes décentralisés des pays nordiques. Elle s'inquiète ensuite du nombre d'humains sur Terre, puis de la question centrale pour elle, du renouveau des dirigeants. Des dirigeants qui gouvernent le monde et pourtant ne sont pas à la hauteur des enjeux qui sont en cours. Des dirigeants qui ne peuvent pas changer d'esprit, ou en tout cas pas à la vitesse qu'il faudrait. Le monde entier, dit-elle, se cherche des dirigeants. Mais où sont ces leaders humanistes, les dirigeantes et les dirigeants de demain, où se dessine une gouvernance humaniste mondiale. Elle en vient au concept central de sa réflexion, qui est celui du leadership humaniste, et que vous découvrirez dans son détail, dans ce livre, qui suscite plus que la réflexion, et reflète une intention qui peut guider le changement à la fois intérieur de chacun et collectif, au bénéfice de tous les aspects de la vie et du monde. Je vous laisse donc découvrir la fin du livre, et notamment cet appel à conscience, qui est un credo pour lequel vous êtes peut-être vous-même prêt. J'espère que nous n'en aurons pas fini de réfléchir aux questions fondamentales que nous propose un livre comme celui-ci.